Vous êtes sur RTL.
RTL Matin, Agnès Bonfillon, Stéphane Carpentier.
Bonjour Agnès.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Toutes les actualités de l'actualité de ce samedi 5 octobre et les vérifications qui ont pris 24 heures après la tuerie de la préfecture de police de Paris.
Un agent qui tue 4 autres collègues. Au départ, aucune piste ne pouvait être écartée. Finalement, hier, le parquet antiterroriste a pris la main avec des éléments très sérieux. Bonjour Jean-Alphonse Richard.
Bonjour.
En fait, c'est en étudiant la téléphonie de cet informaticien de 45 ans que l'enquête a basculé.
Oui, c'est effectivement une série de SMS qui a attiré l'attention des enquêteurs. Des messages adressés par cet informaticien à son épouse la veille et le matin même de la tuerie, des textos qui, sans être parfaitement explicites, l'homme ne décrit pas dans le détail ce qu'il va faire. C'est des textos qui ont une connotation clairement religieuse et peuvent apparaître, nous dit-on, comme une forme d'adieu. L'étude des téléphones et des ordinateurs de la famille n'est d'ailleurs pas terminée. Les enquêteurs passent en revue les noms qui y figurent afin de déterminer si certains contacts ne sont pas en lien avec la mouvance salafiste, idée qui semble séduire cet homme converti à l'islam depuis environ 2 ans. La téléphonie a donc été capitale pour établir la nature terroriste de cet acte, tout comme les déclarations de l'épouse en garde à vue, qui a assisté à la dérive de son mari, était peut-être même au courant de son projet criminel et n'aurait jamais cherché à l'empêcher si cela est établi. Eh bien, cette femme pourrait être déférée devant la justice en fin de garde à vue qui peut durer jusqu'à lundi.
Information signée Jean-Alphonse Richard pour RTL, merci.
Agnès, nous allons maintenant à Gonesse, près de Paris, car c'est là qu'habitait l'auteur de la tuerie.
Oui, si comme les premiers éléments de l'enquête le montrent, il s'agit bien d'un agent de police radicalisé, eh bien cet homme de 45 ans aura réussi à donner le change, camouflage presque parfait, Mourad Djabari.
Oui, effectivement, dans cette résidence, le tueur au couteau était une ombre. Il est décrit par ses voisins comme discret, voire renfermé. Pour les habitants comme Eric, c'est l'étonnement, la stupeur.
Je le connaissais parce que je suis le gardien de la résidence. Là, je suis étonné. Et même les voisins, je pense pas qu'ils ont vu quelque chose. Non, je vous dis, c'était une personne très, très discrète.
Musulman pratiquant, converti depuis 2 ans, il ne présentait aucun signe de radicalisation d'après les habitants. Toujours rasé de près, sa femme ne portait pas le voile. Son comportement est passé inaperçu au sein de la direction du renseignement, mais aussi ici, dans cette résidence, où vivent en majorité des policiers et des employés de la préfecture. Pourtant, plusieurs voisins ont vu cet informaticien de 45 ans fréquenter avec son épouse la mosquée à 10 minutes d'ici. Une mosquée de tendance salafiste, peu fréquentable d'après Claude, voisin et ancien policier.
Je suis pas étonné. Qu'il se soit radicalisé, je suis pas étonné. Je passe souvent devant la mosquée de Gonesse, qui est un peu plus loin. Puis lui, je le connaissais, je l'avais vu. Je l'ai vu devant la mosquée. Mais je suis pas étonné qu'il se radicalise, quoi. C'est tout, ça m'étonne pas. Elle est peut-être pas très fréquentable. Hein. Moi, j'irais pas dans une mosquée comme ça. Moi, c'est une mosquée qui me plaît pas. D'allure, elle me plaît pas. Mais là, cette mosquée, on dirait un baraquement, hein. Peut-être pas le haut de gamme qui vient là-dedans, quoi.
Son épouse, aussi très discrète d'après les habitants du quartier, est toujours en garde à vue ce matin.
Mourad Djabari en direct de Gonesse pour RTL. Merci à vous. Ce matin, Éric Ciotti demande une commission d'enquête parlementaire. Il dénonce l'incompétence du ministre de l'Intérieur. Pourquoi, malgré des éléments inquiétants, Christophe Castaner a-t-il le soir même décrit un homme sans histoire? C'est l'une des questions posées par le député des Alpes-Maritimes. Mort poignardé à 15 ans en plein cours de sport. Un lycéen n'a pas survécu à ses blessures hier en Seine-Saint-Denis. Son agression a eu lieu devant son établissement au Lila. Depuis, 3 adolescents sont en garde à vue. D'après les premiers éléments de l'enquête, une rixe entre bandes rivales serait à l'origine du drame. Le trafic SNCF paralysé pendant plusieurs heures hier entre Marseille et Toulon. Plus aucun train ne pouvait circuler à cause d'une fuite de gaz à la Ciotat. Conséquence, eh bien, des centaines de voyageurs bloqués notamment en gare Saint-Charles. Certains ont dû dormir dans des rames mises à leur disposition. D'autres ont pu prendre des bus, mais très tard dans la nuit.
Cela va faire 4 mois maintenant, Agnès, que des manifestations monstres ont lieu à Hong Kong.
Et l'ambiance se tend encore. Depuis quelques heures, le métro est paralysé. Les manifestants pro-démocratie ne désarment pas. Bien au contraire, Philippe Dova.
Oui, jusque tard dans la nuit, plusieurs quartiers de la ville ont été le théâtre de scènes d'extrême violence inédite ici à Hong Kong. Les manifestants les plus radicaux ont désormais remplacé leurs parapluies par des barres de fer et des marteaux pour affronter les forces de l'ordre. Certains d'entre eux n'ont pas hésité hier soir à s'attaquer physiquement à un policier en civil à coups de poing et de cocktails Molotov en tentant de lui voler son arme. Au cours de la rixe, un adolescent de 14 ans a été blessé par balle à la jambe. Selon un communiqué de la police, l'officier, pris au piège, les vêtements en feu pendant quelques instants, se serait trouvé en état de légitime défense. On ne compte plus le nombre de magasins, agences bancaires chinoises, stations de métro saccagées et incendiées. Face à ce chaos, toutes les lignes de métro, y compris celles desservant l'aéroport, sont fermées, et ce, jusqu'à nouvel ordre.
Philippe Dova, le correspondant de RTL à Hong Kong, et à l'instant la chef de l'exécutif Carrie Lam, qui cristallise la colère des manifestants. Eh bien, elle condamne les actions violentes, je cite, commises par des émeutiers, et selon elle, la population a peur. En Irak, 4 jours de manifestations à Bagdad, 4 jours de répression. Au moins 60 personnes ont été tuées, 1600 autres blessées. Chômage, corruption, emmenée par l'influent leader chiite Moqtada Sadr, des milliers de personnes réclament la démission du gouvernement.
Vous restez bien avec nous. Dans un instant, on parle ballon, football, l'OM en panne. 4 matchs sans succès et même une défaite hier soir. A tout de suite.
Et Philippe. RTL Matin 9h08, suite du journal. Agnès Bonfillon, Stéphane Carpentier.
Et Agnès adore parler de football, donc on y va. La machine marseillaise, Agnès est grippée.
Ah oui, quatrième match sans victoire pour l'OM. Hier, les Phocéens se sont inclinés à Amiens 3-1. Alors oui, l'équipe est privée de Thauvin pour cause de blessures. Il y a aussi les joueurs suspendus, comme Payet. Mais se retrouver sixième du classement avec cette sensation de faire du surplace, ce n'est pas simple. Le gardien Steve Mandanda le reconnaît volontiers.
C'est une grosse déception parce qu'on fait beaucoup d'erreurs et puis on ne concrétise pas les peu d'occasions qu'on peut avoir. Donc on ne mérite pas forcément de gagner aujourd'hui. Il y a des situations qui sont pour ma part quasi identiques et des décisions qui sont différentes. Maintenant, on ne peut pas se cacher derrière ça. Il y a eu plusieurs choses qu'on n'a pas maîtrisées. Je l'avais dit, c'était une saison qui allait être vraiment difficile. En plus, on a beaucoup d'absents et on le voit aujourd'hui. Mais encore une fois, on ne peut pas se cacher derrière ça et à part travailler, il n'y a que ça qui nous reste.
Bah ouais, il n'y a que ça qui reste. Steve Mandanda avec Hervé Vogue pour RTL.
Steve.
Bah Steve, oui.
Ouais, non, pas Steve.
Oh, Steve.
Il ne m'appelle pas Agnès, quoi.
Non, mais enfin, il me connaît bien. Non, il m'appelle autrement. Suite de la 9e journée de Ligue 1 ce samedi, avec notamment à 17h30 le PSG qui accueille Angers. Les autres matchs de la soirée sont à vivre dans le multiplex RTL. Le Parisien aujourd'hui en France, c'est à partir de 19h30. Au programme, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Nice, Brest, Metz, Montpellier, Monaco ou encore Dijon, Strasbourg. Et puis bravo les filles, l'équipe de France féminine a écrasé l'Islande lors d'un match amical hier 4-0 avec notamment un doublé signé Eugénie Le Sommer. En revanche, c'est toujours aussi laborieux pour les Bleus à Doha. Au Mondiaux d'athlétisme, le relais féminin disqualifié en série, 10e place seulement au lancer de disque pour Mélina Robert Michon. Et au chapitre des bonnes nouvelles, car oui, il y en a une, le 4x100 mètres masculin s'est qualifié pour la finale.
Et puis Agnès, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les punaises de lit ne s'attaque pas qu'au matelas.
Oui, là on parle de tout autre chose. Ces insectes aiment aussi les livres, figurez-vous, à tel point qu'à Marseille, une bibliothèque municipale est fermée dans le premier arrondissement. L'opération d'assainissement doit durer au moins une semaine et on ne lésine pas sur les moyens, Étienne Baudu.
C'est un travail colossal qui attend les services techniques de la mairie. La bibliothèque renferme plus d'un million d'ouvrages et tous les espaces sont potentiellement touchés. Depuis hier matin, 2 chiens spécialisés sont arrivés de Toulouse. Patrick Padovani est l'adjoint au maire à la santé.
Ces chiens renifleurs, comme on les appelle, ont été dressés. Ça leur a pris 2 années pour renifler les punaises de lit. Donc ils font partie du 3e étage et là, depuis ce matin, ils ont fait la moitié du 3e étage.
Elles sont dans les livres aussi.
On a trouvé dans les livres aussi. Donc on fait aussi des livres.
Et après le passage des chiens, le mobilier, mais aussi les livres contaminés seront placés dans une vaste tente pour les décontaminer justement.
On sait que les punaises de lit, elles ont des problèmes de mal supporter les écarts de température et les extrêmes. Donc le principe est de les mettre dans une tente qu'on va chauffer à 60 degrés et donc à l'intérieur, elles vont être détruites.
Reste la question des livres anciens et fragiles que renferme la bibliothèque.
On ne peut pas les soumettre à ces températures extrêmes, donc on attend encore des réponses du ministère de la Culture pour savoir comment on va les traiter.
Alors la ville a demandé aux abonnés de rapporter aux guichets automatiques les livres empruntés pour qu'ils soient à leur tour contrôlés, ce qui ne rassure pas Sylvie.
Ah, j'ai crampé de vivre. Mais ça me dégoûte, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça écœure.
Moi, ça me fait peur, même, c'est simple. Bah, moi, je l'ai désinfecté. Je lui ai mis de la bombe à cafard dessus.
Quant à Patrick Padovani, il se veut rassurant. Il n'y a pas de danger, dit-il, pour la santé.
Le reportage d'Étienne Baudu à Marseille pour RTL. Vous avez la phobie des insectes, Isabelle?
Oui, j'aime pas trop ça, non. Bon,
ça s'appelle l'entomophobie, la phobie des insectes, sachez-le. Si Denis Bonnac et Thomas Huck, j'espère qu'ils m'écoutent. C'est plutôt répandu, contrairement à ceux et celles qui sont terrorisés par du fromage. fromage, parce que ça existe aussi, les personnes qui ont peur du fromage. Là, c'est de la tyrophobie, c'est beaucoup plus rare. Mais si vous êtes concerné, ce n'est pas le jour pour vous, hein, pour aller à Melun. La confrérie des Chevaliers du Brie va tenter de battre un record ce matin. Fabriquer un sandwich de 77 mètres de long, avec le fameux fromage, donc, mais aussi du jambon de Paris. Ça s'appelle le Paris-Melun.
Formidable, ça.
Voilà. Un donc Melun, je sens que vous allez. Ouais, ça, évidemment, vous parlez de Brie, bah oui.
Et de sandwich surtout. Vous savez que je suis le président de la Fédération française du sandwich. Vous saviez pas ça.
Non.
Vous connaissez pas Steve Mandanda, mais vous auriez pu avoir l'info aussi là-dessus, quand même, Agnès Bonfillon.
Et Stéphane Carpentier.
RTL.fr, toute l'actu, quand vous le souhaitez, évidemment. Les courses, c'est Longchamp aujourd'hui.